Bon midi tout le monde, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102, c'est l'émission d'En Jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. Midi, une minute exactement. À la météo, hey, présentement il fait beau, il fait chaud, je viens d'aller conduire mon Édouard au travail. Donc c'est vraiment une très belle journée. Il y a des risques d'averse cependant ou d'orage cet après-midi, c'est 60%, on va atteindre 23 degrés. Demain samedi par contre, 23 degrés vendredi, 24 degrés samedi, 24 degrés dimanche. Puis voir quelques petits passages nuageux vendredi et dimanche, mais rien pour écrire à sa mère comme on disait. Donc profitez de l'extérieur, profitez de Québec, c'est le Festibière qui commence ce soir à l'espace 400e. C'est toujours un super festival. La grand-messe ce soir, qui est l'hommage au Cowboy fringant, c'est à 20h. À 20h, Jay Scott vendredi et samedi, c'est Gab Bouchard. Il y a des DJ qui sont là, il y a les Shirley aussi qui vont être là vendredi. Donc bref, superbe festival sur Québec, que le Festibière de Québec. Profitez-en avec cette belle température. Mathias Turcotte, comment vas-tu?
Ça va très bien, on a une belle journée. Toi Jeff, ça va bien, ça dort de bien aller en tout cas.
Ça va super bien, très belle journée, beau soleil, belle soirée hier, le gym, beau petit souper avec ma blonde, j'allais chercher mon Edou au travail, on a taponné un peu sur le nouveau Madden 2027.
Donc, ah ouais, il vient de sortir.
Ouais, exactement. Alors non, superbe soirée, bien en forme. Aujourd'hui, c'est Jim qui m'attend après l'émission, puis c'est de l'arbitrage de deck hockey ce soir.
Oh, grosse soirée.
Ouais, j'arbitre du gros calibre, là, du C1, du B4, du B3, fait que ça va être très intéressant les matchs.
Ça va être intense, ça c'est sûr.
Ça va être intense, ça va être rapide. Mathias, est-ce qu'on peut appeler ça un peu une... quasiment, ben, peut-être pas une éclipse médiatique, mais c'est toute qu'une nouvelle politique que cette entente-là entre Québec et Churchill Falls qui serait annoncée pas plus tard qu'au début de la semaine prochaine pour lancer la campagne électorale. On va en parler dans quelques instants avec Christine Saint-Pierre, notre chroniqueuse politique et aussi ex-ministre des communications, de la culture et de la condition féminine avec le Parti libéral du Québec. Je vais vous faire entendre des extraits d'entrevues avec Pascal Paradis aussi. Je vais vous faire réagir. Ça a beaucoup réagi au 418-971-1021 ce matin. Donc, je veux avoir votre opinion. Mais avant qu'on parle de tout ça, Mathias, il y a de la circulation, puis il y a quelques autres nouvelles également à savoir dans l'actualité.
Oui, je fais un tour rapide parce que c'est difficile actuellement. 20 direction ouest, vous commencez à connaître la charade entre Mgr Bourget et Taniata. C'est difficile. Guillaume Couture aussi au tard chemin du fleuve de l'attente en raison de travaux dans le secteur. Mais sur la rive nord, il y a plusieurs secteurs où c'est au rouge. À commencer par Laurentienne direction sud pour accéder à Capitale. Capitale direction ouest aussi, un peu d'attente entre Laurentienne et Henri Bourassa. En direction est, c'est entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvial. Henri IV, direction sud, entre Versant Nord, ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel actuellement de l'attente. Et c'est au rouge aussi, Charest, direction est, pour prendre Robert Bourassa dans le secteur. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Merci beaucoup, Mathias. Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on doit suivre?
Le Parti conservateur du Québec a annoncé aujourd'hui prévoir de couper drastiquement les dépenses de l'État pour économiser un total de 47 milliards de dollars sur 5 ans. La première partie sera une réduction des subventions directes en mettant fin notamment au Fonds de développement économique. Cela permettra d'économiser un premier 20 milliards sur 5 années. Les autres 23,5 milliards de dollars d'économies se feront en resserrant les dépenses de l'État. Les conservateurs qui proposent entre autres un gel permanent des embauches dans la fonction publique et une réduction des effectifs de 5,6% par année, notamment par l'attrition. La Caisse de dépôt qui a effectué un faible rendement de 5,1% pour les 6 premiers mois de l'année 2026, c'est nettement inférieur à son indice de référence qui a progressé à 7,5%. Les placements dans des entreprises non cotées en bourse est ce qui a le plus affecté de façon négative la Caisse de dépôt dans son rendement. Et je termine avec la nouvelle du jour. Une entente entre le Québec et Terre-Neuve sera officialisée en lien avec Churchill Falls la semaine prochaine. Cette entente viendrait donc remplacer l'entente de protocole qui avait été signée sous François Legault en 2024. Les différents partis d'opposition qui ont remis en question la légitimité du gouvernement Fréchette de signer une entente à quelques semaines des élections. On demande aussi à ce qu'on rende public les détails de cette nouvelle entente.
Pour en parler avec nous, Christine Saint-Pierre, chroniqueuse politique et ex-ministre du Parti libéral du Québec. Madame Saint-Pierre, merci beaucoup d'être avec nous ce midi.
Un plaisir.
Madame Saint-Pierre, moi hier, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon entourage, c'est le coup de circuit que Christine Fréchette avait de besoin pour faire bouger l'aiguille en sa faveur, faire monter la popularité de la CAQ. Est-ce que je suis dans l'erreur?
Non, pas du tout. C'est un très, très bon coup parce que c'est une entente qui est quand même majeure, importante. Lorsque François Legault avait signé le protocole d'entente avec le premier ministre de Terre-Neuve en 2024, j'avais qualifié ça d'historique parce que c'est quand même un dossier majeur pour le Québec qui a besoin d'aller se chercher plus d'énergie, évidemment. Et il faut aller chercher cette énergie-là où elle est. Et le meilleur endroit, c'est Churchill Falls. Alors, François Legault, moi, je pense que c'est lui qui devrait avoir tout le crédit de cette entente-là. Christine Fréchette, bien sûr, a fait en sorte qu'il puisse y avoir des discussions, là, parce que le premier ministre, il y a eu un nouveau premier ministre terneuvien pour que les gens comprennent bien. Puis ce nouveau premier ministre-là a remis en question l'entente de principe qu'il y avait eu. Il avait même promis un référendum sur une nouvelle entente. Alors, c'était vraiment là, une épine au pied de Christine Fréchette et elle a mis ses équipes vraiment à l'œuvre. Mais quand même, moi, je dois dire que celui qui doit aujourd'hui être très souriant et en ressortir très gagnant, c'est Mark Carney. Parce qu'on voit que le gouvernement fédéral, lorsqu'on lit les dépêches, le gouvernement fédéral a joué un rôle majeur pour que le premier ministre de Terre-Neuve mette de l'eau dans son vin et qu'on puisse en arriver à une entente. Maintenant, on n'a pas tous les détails. Et là, il va falloir que la première ministre, Christine Fréchette, soit beaucoup plus transparente. Je comprends qu'elle est première ministre du Québec, mais il y a quand même une élection là qui s'en vient. Et les partis politiques devraient avoir plus de détails, plus d'informations. Elle devrait même convoquer les chefs pour leur expliquer ce qu'il y a dans cette entente. Peut-être que je suis naïve là, de dire ça, mais c'est quand même important parce que ce qui ressort, c'est qu'Hydro-Québec va devoir augmenter sa part. C'est-à-dire, on parlait de 25 milliards de dollars et Hydro-Québec devra aller plus loin de ce côté-là. Alors ça, c'est un élément. Et aussi, il faut comprendre tous les tenants et aboutissants. Maintenant, le gagnant là-dedans, c'est vraiment le premier ministre de Terre-Neuve. Parce que le premier ministre de Terre-Neuve va chercher plus d'énergie qu'est-ce qui était prévu dans l'entente de 2024 à Churchill Falls. Il va y avoir aussi des projets éoliens qui vont s'additionner là aux projets qui étaient déjà en vue. On va faire un projet aussi à Gull Island. Alors, c'est vraiment, vraiment une victoire pour le premier ministre de Terre-Neuve. En plus, le gouvernement fédéral va donner des crédits d'impôt de 15 % pour les futurs projets énergétiques. Alors, c'est vraiment important. Et le premier ministre de Terre-Neuve a aussi beaucoup, beaucoup de projets dans le domaine minier. Alors, le gouvernement fédéral a dû dire, bien, écoute, on va t'aider là pour tes projets miniers. Et en plus, Mark Carney a besoin de se refaire un peu une image là parce que tout ce qu'il a fait en termes environnementaux depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment faire en sorte qu'on enlève là, tout ce qui avait été fait par Stephen Guilbeault puis Premier ministre Trudeau et toute la question du pétrole de l'Ouest. Alors, il vient ici dire, regardez, moi aussi, je joue dans la protection de l'environnement et il veut aussi que l'énergie, qu'on double au Canada la production d'énergie d'ici 2050. Ouais. Pardon. Alors, c'est vraiment, c'est un dossier qui a l'air parfaitement complexe. Il est complexe, mais je pense que à première vue, là, ce que je vois, moi, dans ce que j'ai lu, c'est vraiment Terre-Neuve qui est vraiment la grande gagnante de cette mm-hmm. entente-là. Et on a fait comprendre au premier ministre de Terre-Neuve, bien écoute, s'en vient une élection au Québec, le Parti québécois est en tête, et si le Parti québécois prend le pouvoir, bien le Parti québécois et s'il n'y a pas d'entente, le Parti québécois va vraiment se traîner les pieds et ne voudra pas aller signer ce qui avait été ce sur quoi il s'est entendu en 2024. Mmh. Alors, pour Christine Fréchette, c'est bon, mais est-ce que ça va faire oublier pendant la campagne électorale le bilan de la coalition Avenir Québec?
Bien là, on l'appelle équipe Fréchette maintenant, équipe Christine Fréchette. C'est plus la coalition Avenir Québec. Donc, est-ce qu'il y a un bilan d'équipe Christine Fréchette? Je fais des blagues, vous comprendrez.
ça va s'appeler les Fréchistes. Les quoi? Les
J'adore, alors, Madame Saint-Pierre.
Il n'en demande pas moins que c'est une voiture sur laquelle on a remis de la peinture neuve.
Oh oui.
On a changé les pneus. Puis
mais il y a encore de la rouille en dessous.
Ouais. On a reculé l'odomètre. Alors, il y a quelque chose qui est une construction de la première maison. On veut changer l'image, on donne une nouvelle énergie, une nouvelle image. On veut que les électeurs voient autre chose
ouais.
que le bilan de la coalition Avenir Québec.
En effet.
Mais les électeurs sont quand même des gens qui sont intelligents, ils sont capables de lire entre les lignes et ils sont capables de voir qu'on met le paquet. Puis elle a raison de le faire parce que c'était vraiment le sous-sol là, pour la coalition Avenir Québec avant qu'elle arrive. Elle a réussi à remonter dans les sondages. Maintenant, est-ce que ça va faire bouger l'aiguille? Moi, personnellement, j'en doute, mais peut-être que je suis dans l'erreur. Mm-hmm. Là, j'en doute que ça fasse bouger l'aiguille parce que l'entente, elle comporte des éléments qui sont pas encore connus et qui vont peut-être surprendre.
Oui, c'est ça exactement. On va voir. Normalement, elle devrait. J'aime bien votre idée qu'elle rencontre les autres chefs de parti. On devrait avoir plus de pression au début de la semaine prochaine sur cette entente-là. Tout porte à croire que Christine Fréchette veut donner un grand coup dès le lancement de la campagne pour prouver qu'elle est la femme de la situation, comme elle l'a fait avec l'entente avec le fédéral pour 10 milliards dans les infrastructures. Bien, regardez,
oui, mais
j'ai réussi à négocier.
Encore là, l'entente avec le fédéral, c'était dans les cartons. Ça ne bougeait pas. Puis là, Marc Carnier a fait en sorte que ça bouge. Puis cet argent-là qui vient du fédéral, je m'excuse, mais c'est ton argent puis c'est le mien. Là.
Vous avez entièrement raison.
C'est l'argent des Québécois. Il y a une signature, de belles photos, ça fait de belles publicités mm-hmm. pour la campagne électorale, mais il n'en demeure pas moins que les gens vont-ils oublier Nordvolt? Est-ce qu'ils vont oublier toutes les ratés dans le domaine
Moi, je l'oublie pas.
Avec sa clique? Alors, qu'est-ce qu'elle propose aussi comme vision de développement du Québec? Bien mm-hmm. ça, il va falloir qu'on l'écoute aussi là-dessus, qu'elle fasse des propositions claires pour que les Québécois voient qu'elle a quelque chose à proposer.
En effet. Je veux terminer avec vous sur l'annonce du Parti conservateur du Québec ce matin de couper 47 milliards. Mais là, je regarde le journal Le Soleil, puis Éric Duhem a dit « Hey, je vais couper 47 milliards, mais sans toucher au service public. » Tu sais qu'Éric Duhem veut le couper 47 milliards, puis qu'il nous présente son plan économique, j'ai rien contre ça, mais c'est prendre la population pour des niaiseux de dire que si je coupe 47 milliards, il n'y aura rien qui va être coupé dans les services publics, là.
Oui, j'ai écouté cette conférence de presse-là tout à l'heure. Éric Duhem est un excellent communicateur et il a des points sur lesquels il a vraiment, vraiment raison. C'est-à-dire le gaspillage là, qui s'est fait au cours des 8 dernières années, un déficit de 7 milliards de dollars. C'est avec ça là, que la CAQ arrive en campagne électorale. Alors, les compressions qu'il propose, quand j'étais au gouvernement de Philippe Couillard, on a essayé ça là, en disant on va compresser puis on touchera pas au service puis ça n'a pas marché. Mm-hmm. C'est un peu de la pensée magique. Maintenant, lorsqu'il dit qu'il y a trop de fonctionnaires, moi, je suis d'accord avec lui. Il y a possiblement des choses à faire de ce côté-là. Il dit aussi qu'ils veulent couper les subventions aux entreprises, ça, je pense que c'est peut-être risqué, mais en même temps, il y a des subventions, des millions et des millions et des millions de dollars qui ont été donnés en subvention puis que ça n'a rien donné. Il y a des fameux prêts pardonnables. Moi, cette expression-là me fait rager. Un prêt pardonnable, ça veut dire...
Oui, moi aussi, un prêt pardonnable, ça veut dire si ça marche pas, c'est pas grave, tu nous rembourses pas. Ça...
L'entreprise paiera pas, puis il y a eu beaucoup de prêts pardonnables qui n'ont pas été remboursés. Alors là-dessus, il touche des points qui sont importants. Maintenant, est-ce qu'il serait capable de faire ce qu'il dit? Pas certaine, parce que c'est tout un exercice. Il dit aussi, puis on l'avait fait, nous, Martin Coiteux avait fait ça, revoir tous les programmes que le gouvernement offre, puis dire à un ministre, bon, ben tu vas ajouter un programme, tu vas en enlever un mm-hmm. dans ton portefeuille. Je peux vous dire qu'il y a des gens autour de lui, puis des sous-ministres, puis des fonctionnaires qui vont s'organiser pour mettre des bâtons dans les roues. C'est normal parce que les gens, évidemment, veulent protéger leur emploi. Puis ce qui est plus facile à aller faire des compressions, ben c'est quand on regarde en bas de l'échelle. Là. Tu sais, on n'est pas en haut de l'échelle, on est dans le bas de l'échelle, puis on va voir dans le bas de l'échelle et c'est là que la compression se fait, malheureusement. Alors, c'est quand même une très bonne... Moi, j'ai écouté sa conférence de presse, je l'ai trouvé très clair avec M. Poulin. Très clair. Met le doigt sur un bobo, mais est-ce qu'il est capable de corriger ce bobo-là? Pas certain.
Madame Christine Saint-Pierre, ex-ministre au niveau du Parti libéral du Québec et chroniqueuse politique, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était très précieux pour nous.
Bonne journée et bonne fin de semaine.
Merci, vous aussi. Au revoir, Christine Saint-Pierre, que vous entendez sur nos ondes, autant dans l'émission Marceau le matin que dans l'émission On en jase.
On en jase!
On continue sur cette entente de Churchill Falls. Madame Saint-Pierre vient de nous le dire. C'est une entente qui avait été qualifiée d'historique lorsqu'à l'automne, François Legault avait signé ce deal-là avec l'ex-premier ministre de Terre-Neuve. Ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, Terre-Neuve a eu le nouveau premier ministre conservateur Tony Wakeham. Et lui a dit, il n'est pas question que ce deal-là, je le respecte. On est encore trop perdant comme on a été avec l'entente qui avait été signée quelque part au début des années 70. On recevait ce matin, dans Marceau le matin, c'est disponible sur le blvd.fm, Pascal Paradis, député du PQ pour Jean Talon, candidat du PQ aussi pour Jean Talon et porte-parole en matière d'énergie. Je veux vous faire entendre trois extraits. Réagissez 418-971-1021. Si ça vous tente, vous pouvez même nous appeler au 418-780-1021 pour réagir. Le premier extrait que je te fais entendre, Mathias, c'est Pascal Paradis qui parle de la position du Québec dans les négociations. On écoute ceci et après, je veux qu'on interagisse.
Et donc, actuellement, Christine Fréchette se présente à la table de négociation, en gros, en disant, s'il vous plaît, signez une entente avec moi parce que je veux arriver avec une entente aux élections. Est-ce que c'est la posture de négociation qu'il faut avoir ou il faut s'asseoir en disant, il y a une entente qui existe, on a des tarifs préférentiels, Terre-Neuve, vous êtes enclavé en matière d'énergie, donc vous devez avoir une entente avec le Québec. Est-ce qu'on est là en position de faiblesse ou on est là en position de force? Moi, je dis aux gens qui nous écoutent actuellement, en raison du fait que le calendrier de Christine Fréchette est un calendrier électoral, le Québec n'est pas en position de force comme il devrait être à la table de négociation.
Moi, je trouve que Pascal Paradis a complètement tort là-dessus, puis les partis d'opposition vont beaucoup jouer là-dessus. Là. Ah, elle fait ça parce qu'on est en campagne électorale. Ah, c'est dans le calendrier électoral. Juste rappeler que cette entente-là a été signée à l'automne 2025. Puis l'entente était en danger en raison de l'élection d'un nouveau premier ministre conservateur, Tony Wakeham, à Terre-Neuve. Alors, normalement, s'il n'y a pas cette élection-là à Terre-Neuve, cette entente-là, là, est là depuis l'automne, puis on n'en parle même pas en campagne électorale.
Elle serait réglée, puis je veux dire...
Exactement.
On peut dire bien des choses sur la CAQ, mais cette entente-là, ça a été une priorité depuis que François Legault est au pouvoir, du moins depuis le début de son deuxième mandat en 2022.
Vraiment, depuis le début du deuxième mandat, parce que la COVID a retardé les choses lors du premier mandat, mais c'était une promesse forte de la CAQ. C'était une promesse forte de la CAQ de développer davantage notre hydroélectricité. On le voit avec le plan de déploiement pour Hydro-Québec. Et dans le plan de déploiement, ben, la pierre angulaire, C'est cette entente-là. C'est ce barrage-là à Churchill Falls. Donc, tu peux pas commencer sans avoir ton plus gros morceau. T'sais, c'est comme si tu veux commencer ton équipe dans la Ligue nationale de hockey, mais tu te dis, bah, y aura un joueur vedette qui arrivera dans 8 ans, puis là, je vais commencer, tu gagneras jamais, là, tu réussiras jamais.
Je suis d'accord avec toi, puis ce que je trouve intéressant, c'est que M. Paradis cible le fait qu'on s'en va en élection, pour dire que c'est un mauvais timing pour Christine Fréchette de négocier à ce moment-là. Mais au contraire, j'ai l'impression que c'était un bon timing pour les deux parties. Parce que les deux parties voulaient s'entendre. Christine Fréchette voulait s'entendre avant les élections. Mais du côté de Terre-Neuve, là, on oublie que le premier ministre de Terre-Neuve, là, lui aussi voulait qu'il y ait une signature avant les élections. Est-ce que ce premier ministre-là, ça y tente d'aller négocier avec le PQ qui semble autant réticent que ça à une entente avec lui? Jamais.
Jamais.
Fait que de son côté aussi, on voulait régler ça le plus rapidement possible.
Donc, pour moi, t'as entièrement raison. Il y avait personne en position de faiblesse. Et ajoute à ça que le Canada a passé un projet de loi spécial pour accélérer les grands projets et que Churchill Falls, dès l'entrée en vigueur de ce projet de loi-là, est rentré dans les grands projets. Donc, il y avait un momentum aussi avec Mark Carney, qui veut que ça se réalise. Puis d'ailleurs, le Canada a contribué à ce deal-là. Donc moi, la position de faiblesse, j'y crois pas du tout. Je trouve juste que c'est des bons partenaires d'affaires qui se sont tassés ensemble puis qui ont trouvé une solution gagnant-gagnant. C'est juste ça que je vois.
Puis que les éléments étaient en place pour que cette solution-là se trouve dans les meilleurs délais.
En effet. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je trouve. Deuxième extrait, ben justement, on va revenir sur cette vieille entente de Churchill Falls.
Et c'est aussi le même gouvernement, puis Christine Fréchette continue comme ça, qui se présente à la table des négociations en disant « C'est injuste pour vous, Terre-Neuve, le tarif préférentiel qu'on paye. C'est pas comme ça qu'il faut se présenter à la table des négociations. Et nous, si c'est ça les bases de l'entente, et c'est le cas actuellement, ce n'est pas une entente qui est à l'avantage du Québec. Et un gouvernement du Parti québécois, lui, va avoir une posture qui tient compte de ces éléments historiques et de l'intérêt supérieur des Québécois et des Québécoises.
Fait que quand j'écoute Pascal Paradis, là, de 1969 à 2019, c'est Frédéric Boisvert qui nous l'a rapporté ce matin, le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Québec a tiré des profits de 28 milliards du barrage à Churchill Falls. OK? Terre-Neuve, comment tu penses qu'ils en ont tiré comme profit en milliards de dollars?
Ça doit pas être grand-chose.
2 ouais. milliards de dollars.
26 milliards de différence.
C'est ça. Alors là, c'est pour ça que Christine Fréchette disait à Terre-Neuve, hey, écoutez bien, on va reprendre de votre territoire, on va reconstruire les affaires, on va payer encore comme on a fait. Mais là, on s'entend que le fédéral va contribuer aussi dans le montant. Et pour que vous puissiez nous donner accès à votre territoire, là, on va régler ce déséquilibre-là. On va être bon partenaire, tu sais, parce qu'on se rend compte que... En bon français, là, on vous a fourré juste bien correct depuis 1969. Et ça soulève l'ire de Pascal Paradis. Ça n'a pas de bon sens! On fait des profits records avec ça. Fait que là, pourquoi qu'on dirait à Terre-Neuve qu'il faut revoir l'entente? OK, le PQ veut-tu se séparer du Canada parce qu'ils disent toujours que le Canada fourre le Québec?
Ça ressemble à ça.
Ça ressemble à ça. Donc là, nous autres, on prend un comportement inverse au Canada. On dit, hey, on va être un bon partenaire d'affaires. Puis soit dit en passant, c'était 2 cents le kilowattheure. Normalement, jusqu'en 2041, on l'augmentait à 4 sous le kilowattheure. Puis qu'on va redonner à Terre-Neuve. Puis c'est 6 sous le kilowattheure jusqu'en 2075. Fait que là, tu sais, il n'y a pas d'affaire à crier au scandale là, là. C'est pas passé de 2 sous à 25 sous le kilowattheure.
Puis je vous l'annonce que ce 7 sous-là, on va le regarder probablement en 2060 en se disant que, crime, on est pas mal avantagé dans ce deal-là.
Exactement. Un auditeur nous écrit « Hein? Le fédéral va contribuer au projet crime. » C'est le contraire des bonnes vieilles chicanes Québec-Ottawa. C'est ce qui m'a tanné de l'entrevue de ce matin avec Pascal Paradis. On voulait juste une chicane avec Ottawa puis le reste du Canada. On voulait pas avancer.
Mais est-ce que tu vois une tendance chez le Parti conservateur, Jeff, dès qu'on a un projet qui comporte la province du Québec puis un partenariat avec un autre projet, ben on se braque automatiquement du côté du Parti québécois.
Oui.
Qu'on trouve que ce soit un bon projet, qu'on pense que ce soit un projet nécessaire ou non, on va se braquer automatiquement. Le TGV en est un exemple.
Mm-hmm.
TGV Canada vers l'Ontario. Oh là, l'Ontario est inclus. Ça ferait du transport en commun à travers le Canada. On se braque. Ah là, entente avec Terre-Neuve. Entente commerciale avec autre province du Canada.
Super,
on se braque
bonne
automatiquement.
Entente. Bonne entente qui va nous permettre de développer notre réseau hydroélectrique. Puis soit dit en passant, on l'essaye. au Québec de le développer. Mais qu'est-ce qui est arrivé en juillet dernier? Bien, il est arrivé qu'on s'est frappé le nez avec les Premières Nations, avec un référendum pour un gros projet qui malheureusement n'a pas passé. C'était là, justement le référendum le 12 juillet dernier, la communauté Innu de Pessamit qui l'a rejeté à 63%. C'est un projet de plus de 2 milliards de dollars qui permettait d'augmenter notre hydroélectricité. Fait que quand tu as de la misère sur ton propre territoire à développer, tu n'as pas le choix d'essayer de te trouver des partenaires d'affaires qui sont à l'extérieur. Puis en passant à l'extérieur, c'est à l'intérieur de notre pays. Là. Le Canada est encore un pays. Là. D'ailleurs, Alexandre le dit, si on veut progresser en tant que société, en tant que pays, je pense qu'il vaut mieux qu'on travaille toutes les provinces ensemble plutôt qu'une contre l'autre. Oui, puis je rajouterais surtout dans l'économie où on est, la guerre tarifaire puis les difficultés qu'on a avec les États-Unis.
Oui, mais Jeff, si jamais les provinces, on travaille tous ensemble pour l'économie, pour l'énergie, pour le transport en commun, ben là, ça va être quoi nos raisons de séparer le Canada?
C'est ça le problème. Canada. En effet, t'as entièrement raison. Et le chat est sorti du sac justement à la fin de l'entrevue. Écoute bien cet extrait-là. Écoute bien quand on parle du Canada.
Depuis toujours, les Québécois le savent. Ça, j'ai même pas besoin de le réitérer, mais l'électricité, c'est 100% québécois. Et là, soudainement, le fédéral vient s'en mêler. Et quand le fédéral vient s'en mêler en matière d'énergie, c'est jamais dans l'intérêt du Québec. Souvenons-nous, très important de se souvenir, alors que le fédéral a jamais mis une scène dans le développement de nos infrastructures de production d'électricité, il a subventionné, il a donné des garanties pour la construction d'une centrale hydroélectrique à Muskrat Falls, à Terre-Neuve, dont le but était de contourner les intérêts du Québec.
Alors voilà la bonne vieille chicane Canada-Québec. Moi, c'est pour ça qu'on garde nos champs de compétences provinciales, puis je veux qu'Hydro-Québec reste de compétences provinciales. Je veux que l'énergie reste de compétences provinciales. Ceci dit, Terre-Neuve, ils n'en ont pas d'argent pour le développer. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés cogner à la porte du Canada, puis ils ont dit hey, « tu nous aiderais-tu? » Fait que c'est pas contre les intérêts du Québec. C'était pour les intérêts de Terre-Neuve. Et là, ben, dans cette situation-là, Ottawa a joué le rôle de médiateur. Puis sais-tu quoi? Je suis content en crime qu'il ait joué le rôle de médiateur. On va avoir une entente.
Mais non, tu sais, faut sortir de cette mentalité-là que c'est le Québec. Puis là, le Canada n'est pas intervenu pour menacer personne ou pour aller en contradiction avec personne. Là. On a vu qu'une entente qui pourrait être profitable pour deux provinces était sur le point de se finaliser. On a intervenu pour aider à régler cette entente-là, que je tiens à préciser que les deux parties sont en accord.
Oui.
Puis là, on crie au scandale.
Exactement. Et tu le sais, je l'ai dit sur les ondes de Boulevard 101, je l'ai dit avec toi à l'émission On en jase. Je trouve que le Parti québécois a de très bonnes propositions à l'heure actuelle, notamment en itinérant. Je trouve vraiment qu'ils sont sur la coche. Je te l'ai dit, pour une première fois de ma vie, je pense voter PQ. Quand il nous arrive une affaire de même, là, je me sauve en courant.
Ah, puis t'es pas tout seul. En fait, le problème avec le PQ, c'est quand ils font des choses comme ça, toutes les personnes non souverainistes qui se disent ah, peut-être, je pourrais peut-être voter
ben oui.
Parti québécois, ben on se sauve tous en
ben
courant.
Ben non, exactement. C'est une belle solution gagnant-gagnant pour Terre-Neuve, pour Québec, pour le Canada avec le projet de loi des grands projets. On a trouvé un beau terrain d'entente. Félicitations. Vous m'avez pas entendu dire ça souvent, mais félicitations à François Legault d'avoir fait la démarche durant le deuxième mandat de la CAQ. Puis bravo à Christine Fréchette d'avoir réussi justement à s'asseoir avec les acteurs principaux puis à avoir trouvé une entente. Évidemment, on va devoir avoir plus de détails avant de se prononcer définitivement, mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. On veut mettre le pied sur l'accélérateur d'ici 2045 pour doubler notre capacité énergétique au Québec. Ça passait par ce gros morceau-là. On ne pouvait pas tomber dans une chicane comme le PQ le voulait de 4, 5, 6 ans. Ça aurait retardé notre plan de déploiement. Puis sachez que on en est là. C'était dans les médias cette semaine. Là. On change les transformateurs d'Hydro-Québec parce que dans la région de Montréal, il y a trop de demandes de spa et de voitures électriques. On est rendu à ne plus suffire à notre propre demande. On peut pas se passer de ça.
On rentre dans une... Puis là, je veux pas faire capoter le monde, mais on rentre dans une sorte de crise énergétique mondiale depuis maintenant quelques années. Ici, on est chanceux encore, mais tu t'en vas en Europe, puis on manque d'énergie, que ce soit du pétrole ou d'énergie pour justement produire de l'électricité. On en manque de plus en plus pour répondre à la demande. Là, on est une province qui vient sécuriser une entente jusqu'en 2075 qui nous assure un apport quand même assez conséquent d'énergie. Puis là, on n'a pas encore des détails. Mais de ce qu'on voit pour l'instant, à faible coût, je vois pas en quoi ça peut être négatif.
Moi non plus, pas du tout. Merci beaucoup d'avoir réagi au 418-971-1021. Je vois que les auditeurs de Boulevard 101 pensent pas mal comme moi et toi, Mathias, par rapport à cette entente-là. Vous êtes toujours les bienvenus, d'ailleurs, pour réagir. Après la pause, on va parler d'un dossier à la une du Devoir qui m'a fait friser le poil ses bras à matin, Mathias. On a entendu les médecins, on les a fait venir ici en onde, nous dire « Hey, nous autres, c'est pour le patient qu'on se bat. On se bat pour le patient, pour que le patient ait de meilleurs services. C'est pour ça qu'on négocie fermement avec le gouvernement. » Et là, on apprend à la une du Devoir que, ouais, pas mal plus le patient qu'il faut qu'il organise son horaire pour aller voir le médecin que le médecin qui s'organise pour être disponible pour le patient. On va parler de ceci avec la directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay. Dans l'article du Devoir, est en furie après les médecins. Elle est avec nous après cette courte pause.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Jusqu'à 14h, c'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. BLVD 101, c'est notre application sur App Store, Google Play Store. C'est gratuit. Téléchargez-les, vous pouvez nous écouter partout en province. Mathias, d'après moi, on va avoir l'orage ou l'averse. Tourne-toi. Check-moi le ciel.
Oh ouais, ça commence
ouais,
à être gris pas mal.
Ça va s'en venir. On parlait d'orage ou d'averse en après-midi. C'est ça qui s'en vient, les amis. C'est 23 degrés. Pour demain, par contre, 23 degrés généralement ensoleillé. 24 degrés ensoleillé pour samedi. 24 degrés alternance de soleil et nuages pour dimanche. Mathias, à la circulation?
Oui, tour rapide capitale direction est entre Pierre-Bertrand et Boulevard Neuvia. C'est au ralenti en direction ouest. C'est entre Pierre-Bertrand, ça remonte jusqu'à 1ère avenue pour le moment. Laurentien, direction sud pour accéder à Capitale, quand même pas mal d'attentes dans le secteur. Charest, direction est pour accéder à Robert-Bourassa, cette fois-ci c'est au rouge. Même chose pour Henri IV, direction sud à hauteur de Charest. Je nous transporte maintenant sur la rive sud, très difficile présentement, entre Monseigneur Bourget jusqu'à Taniata en direction ouest sur l'autoroute 20. C'est très difficile en permanence, mais particulièrement en ce moment. Et Guillaume Couture, direction ouest, hauteur chemin du fleuve, c'est au ralenti également en raison de travaux dans le secteur. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Mathias, as-tu un médecin de famille?
Oui.
Oui, es-tu facile à rejoindre?
J'y vais pas souvent, je t'avoue.
Exactement. Moi, j'ai une médecin de famille, elle est extraordinaire. La docteure Robidoux, je l'adore. Elle prend le temps avec moi, je l'ai dit. Ça a été une des personnes qui a contribué à me sauver la vie lors de ma dépression majeure. Par contre, si je vais avoir au mois de septembre, genre, faudrait que j'appelle entre 8h à 9h le matin, le 8 août. Mais moi, je suis en onde. Fait que je peux pas.
Fait que
j'ai bien de la misère à la voir. Tu sais, même ça me dit, hey, faudrait que tu viennes me voir pour ton problème d'eczéma. Ouais, je pourrais bien, mais écoute. Puis là, ben, tu sais, moi, je suis en onde jusqu'à 2h. C'est tough quand j'ai la ligne pour un rendez-vous. Là, ils me disent, ouais, 10h30 le 8 septembre. Ah, mais je dis, non, je peux pas, je suis en onde.
Ah, mais ah, c'est ben, là qu'on a une place.
Ouais, mais 13h30. Non, je suis en onde, Ben oui, mais là, quelle heure finit-il de travailler à 14h? Eh, boy, boy. Ouais, j'ai pas de disponibilité. Rappelez-moi au mois de septembre.
Fait que là, tu repars.
Exactement.
Au mois de septembre, puis tu décales parce que t'es
décale.
T'es pas capable de...
En plein ça.
De te...
Parce que, qu'est-ce que tu veux? J'ai un emploi qui me permet pas ça. De partir. Et je suis pas le seul au Québec, en passant, là, qui a un emploi comme ça. Là. Les personnes qui travaillent en construction, ils peuvent pas partir quand ils veulent. Les enseignants, ils peuvent pas partir quand ils veulent. Là, je nomme ceux-là parce que c'est les deux premiers qui me sont venus en tête, mais vous comprendrez qu'il y en a plein d'autres. Mais là, on apprenait à la une du Devoir que c'est seulement 6%. Mathias, des plages horaires que les médecins rencontrent le patient à l'extérieur du lundi au vendredi entre 8h le matin puis 14h l'après-midi.
Attends, quoi?
Entre 8h le matin et 14h l'après-midi, t'as bien compris.
Tu t'es pas trompé, là? C'est pas non. 16h ou 17h.
Non. Fait que ça veut dire que 94% des rendez-vous se passent là. L'autre 6% se passe soit entre 14 ou 17 heures, ou peut-être des fois chanceux un soir de semaine ou la fin de semaine. Mais pourtant, ça, là, quand les médecins ont dit « Nous autres, on travaille pour le patient. » Fais-moi confiance, Mathias. Je suis là pour toi. bien, ils ont promis d'ouvrir des plages horaires à l'extérieur des horaires atypiques. C'est pas fait à l'heure actuelle. Et ça soulève l'ire de plusieurs personnes, moi en premier, qui cours après ma médecin de famille, et également la directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, Sylvie Tremblay, qu'on a au bout du fil. Madame Tremblay, merci de participer à l'émission On en jase.
Ça me fait plaisir. Quelle introduction!
C'est une bonne introduction, mais c'est ma vie, c'est ma réalité, Mme Tremblay. Puis je le redis,
oui,
c'est rien contre ma médecin de famille. Quand j'arrive dans son bureau, j'ai un service. Écoutez, j'ai un service 5 diamants, tellement qu'elle est bonne, qu'elle est attentionnée, qu'elle est bienveillante. Mais je suis pas capable d'avoir accès à elle. Puis imaginez, j'ai une médecin de famille. Imaginez ceux qui n'ont pas de médecin de famille.
Exactement. C'est ça le problème. C'est que vous le soulevez. Quand on rentre dans le réseau, on est toujours content d'avoir à la fois, quand on a des problèmes de santé, un médecin ou une infirmière spécialisée, ou quand on a un problème de services sociaux, un travailleur social ou autre. Mm-hmm. Alors, un psychologue. Alors, c'est le problème, c'est de rentrer dans le système, comme vous l'exprimez bien. Mais rendu là, il y a une responsabilité pour les médecins, on parle de ces deux aujourd'hui, là. Il y a une responsabilité de recevoir leurs patients. Parce que quand tu es malade, tu veux voir ton docteur quand tu as un docteur. Ou quand tu n'en as pas, tu es censé être inscrit sur une liste pour une clinique. Et là, comme vous disiez tantôt, on peut pas... Quand la personne âgée a un problème puis que c'est son garçon ou sa fille qui est obligée de l'amener, ça peut pas être toujours entre 9h et 15h. Là.
Ben non, et exactement. C'est ça le problème.
On est sur 5% de rendez-vous les week-ends. Et ça, là, je vous le dis, là, c'est absolument inacceptable. Les médecins et le gouvernement nous avaient dit on va ouvrir les plages horaires parce que effectivement le monde ils sont malades quand ils sont malades. Ils sont pas toujours malades de 9 à 4. Le problème cette année, vous le voyez aussi, c'est que les urgences débordent l'été. Pourquoi? Ben parce que on vient de se le dire. Il n'y a pas de docteur qui t'accueille en dehors des heures que vous avez nommées. Ben, alors là, il faut que ça cesse.
Exactement, parce que le problème de cette première ligne-là, c'est que si j'ai pas de réponse, moi, puis je vais reprendre votre exemple qui est excellent, je suis une personne aînée, il faut que mon fils ou ma fille m'accompagne, je n'ai jamais de réponse de mon médecin de famille, bien, à un moment donné, le fils ou la fille va dire, bien, on va aller à l'urgence, père, on va aller à l'urgence, ma crème, tu files vraiment pas.
Exact, exact. Et puis, je vais vous dire comment on appelle ça, là, ces heures-là. Là. Puis ça aussi, c'est un peu particulier. Dans la négociation, on appelle ça les soirs, les week-ends et après 15-16 heures, des heures défavorables. Alors, qu'est-ce qui est défavorable?
Mais c'est défavorable pour le médecin parce que c'est favorable pour le patient.
Exact. Alors, juste le mot le dit. C'est-à-dire que là, il faut absolument qu'il y ait des médecins et qui changent leur modèle d'affaires, qui revoient dans les cliniques, là, qui peut faire du jour, du soir, de la fin de semaine, puis là, qui reçoivent le monde, c'est pas des ordres défavorables.
Ben non.
C'est des gens malades qui doivent être reçus.
Ben, c'est parce que, Mme Tremblay, corrigez-moi si je me trompe, moi, je vois le médecin comme un service à la clientèle. T'sais, ils se le disent, travailleur autonome, de toute façon. Donc, si tu es travailleur autonome, ben, tu vas vouloir travailler aux heures que ta clientèle va être disponible pour toi. C'est pas à la clientèle. T'sais, je donne un exemple. J'ai déjà travaillé chez Bell, moi, au centre de service à la clientèle. Ben, les lignes étaient ouvertes jusqu'à 8 heures le soir. Ben, il y avait du personnel jusqu'à 8 heures le soir. Puis, à un moment donné, c'était à mon tour de le faire. C'est normal, sinon, on n'aura plus de clients.
Mais en même temps, vous savez, ils sont travailleurs autonomes, mais l'entièreté de leur salaire, sauf ceux qui sont vraiment dans le privé-privé, là, l'entièreté de leur salaire, c'est les contribuables qui payent. Alors, mais il y a une partie aussi où le gouvernement a laissé faire, je pense. Et là, il faut revoir un peu la disposition. Là. Mm-hmm. Puis là, leur dire, écoutez, là, il faut que vous soyez au rendez-vous. Il y a eu une belle négociation. Là. Ils ont eu quand même des majorations de salaire. Et je pense que c'est correct. Toute personne
ben
doit
oui.
avoir un meilleur salaire. Ça, moi, je suis pas contre ça. Puis il y a des docteurs, puis votre docteur, puis la mienne, c'est du bon monde qui travaille très fort puis qui sont très compétents. Alors ça, faut pas dire le contraire. Mais arrêtez de recevoir du monde quand on peut... Ça n'a plus de bon sens. Là, on est rendu dans une situation où il y a de plus en plus de personnes âgées, puis il y a de plus en plus de problèmes sociaux. Et là, on ne peut pas voir nos docteurs, puis on ne peut pas voir nos infirmières praticiennes, puis on a de la misère à avoir du monde. Non, ça n'a pas de bon sens. Là, ouvrez vos plages horaires, là. Mettez un petit peu de jus, là, puis allez-y le soir, puis les fins de semaine, puis c'est comme ça. C'est comme ça la vie, là, dans le réseau de la santé.
Bien, je fais juste regarder dans le réseau de la santé, les infirmières qui travaillent en milieu hospitalier sont obligées de faire une fin de semaine sur deux.
Exact, et qui font des heures supplémentaires
en plein
temps, parce qu'il y a de la pénurie. Alors là, il faut que ça cesse. Et puis, vous le savez autant que moi, puis les gens qui vous écoutent aussi aujourd'hui, là, il y a des limites à ne pas desservir les gens, là. Il faut que les gens soient desservis. Ça n'a pas de sens.
Ah, exactement. Excellent texto qui vient de rentrer. Voyez-vous, en 2021, lors d'un rendez-vous de routine, mon médecin de famille a décelé un cancer simplement en m'auscultant. Ça m'a sauvé la vie. Sans médecin de famille, je n'en serais pas sorti. Tout le monde devrait y avoir droit. C'est tellement un exemple concret et qui nous démontre à quel point il faut augmenter justement la disponibilité de nos médecins de famille.
Parce que là, il y a des gens qui se sont inscrits. Puis ça, je voudrais terminer peut-être avec
vous. Ben oui, allez-y.
Dans la négociation, il devait avoir 500 000 inscriptions, dont 150 000 personnes vulnérables. Alors, tout ce beau monde a été inscrit, semble-t-il, au mois de juin. Et là, les médecins avaient une rémunération pour ça. Alors, mais quand vous êtes malade, puis que vous êtes inscrit, puis que vous recevez votre petite lettre, là, faut que vous appeliez, là, vous appelez au GAP. Et là, c'est un pôle de médecins qui vous voit. Mais si vous êtes une personne vulnérable, il faudrait éventuellement que vous soyez pris en charge par un médecin. Et ça aussi, il faut que les médecins de famille se rendent compte qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables et qui n'ont pas encore, même avec le premier, le deuxième, le troisième téléphone, n'ont pas un médecin dédié. Puis là, ça n'a pas de bon sens, ça non plus.
Je suis très d'accord avec vous, Mme Tremblay. En terminant dans l'entente, savez-vous c'était quoi le pourcentage dans lequel les médecins s'étaient engagés à être là? Puis là, moi, je vais l'appeler à des heures favorables pour la population et non pas de défavorables.
Bien, vous savez, les conventions collectives, parce que c'est des conventions collectives, ils ne disent pas ça, là, entre le gouvernement
ben
et
oui,
les
c'est
médecins,
ça.
Ne sont pas publics, tandis que toutes les autres conventions collectives le sont. Alors, il y a un petit problème là.
Mm-hmm.
Ils avaient prévu, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 75 millions qui devaient être mis en place là pour augmenter les plages horaires d'ici la fin de la convention collective. Mais comment elle est distribuée, ça veut dire des fonds encore, comment ça va se répartir, ça, vous le savez, vous et moi, là, comme je vous dis, on n'a pas le fin fond de l'histoire.
Bon, en effet. Sylvie Tremblay, directrice générale du regroupement provincial des comités des usagers, merci beaucoup pour votre disponibilité pour l'émission On en jase et au plaisir de se reparler avec des meilleures nouvelles.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir, Sylvie Tremblay. Elle est en furie après le gouvernement et avec raison. Plusieurs textos qui sont rentrés durant l'entrevue, notamment Pierre-Luc qui écrit « Ce que je trouve injuste avec le réseau de la santé, c'est qu'ils sont disponibles aux heures où la population active qui paye le plus d'impôts n'est même pas disponible. » Et c'est vrai pour les médecins de famille, c'est vrai aussi pour les urgences. Tu vas te ramasser à l'urgence, là, exemple à 9h le soir parce que tu joues au décoqué puis tu viens de te péter une cheville. Il n'y aura peut-être même pas personne pour prendre la radiographie. On va te donner des petites pellules, on va te retourner à la maison puis on va te dire « Reviens demain matin. »
Là, on va avoir quelqu'un pour toi.
Ouais.
Tu sais, t'en parlais, c'est nous autres des clients. C'est nous autres clients puis c'est nous autres qui payent pour ces services-là. Dans n'importe quelle entreprise, comme t'as pris la comparaison de Bell, ben les employés seraient disponibles quand le client est disponible.
Exactement.
Du côté du gouvernement, c'est pas compliqué. Même si on paye les salaires des médecins, il faut mettre notre point sur la table et dire, regarde, le client,
ben oui.
Paye pour tes services, rends-toi disponible quand le client peut.
Puis écoute, tu sais, si je regarde les statistiques justement que Pascal Renault, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, m'a fourni, on est à peu près à un âge là, moyen, puis c'est très élevé, il faut réussir à diminuer ça, pour le médecin omnipraticien à peu près au Québec à l'heure actuelle de 57-58 ans.
L'âge moyen.
Oui, l'âge moyen, OK. C'est très élevé, malheureusement, les médecins omnipraticiens, OK. Mais ça me fait dire quand même que ces personnes-là, là, les enfants doivent avoir grandi. doivent être capables de faire des fois des soirs et des fins de semaine.
Un soir semaine, une journée t'es, de fin, une fin de semaine ou deux
ben,
semaines.
C'est parce que tu es dans un pool de médecins qui sont dans la même clinique, d'accord? Donc, tu es dans, exemple, 12 médecins dans la même clinique. Ben moi, pour moi, me semble que c'est facile, là. Il y en a 8 qui rentreront une semaine de jour, puis 4 qui rentreront de soir. Puis tu fais la rotation de même. T'es une semaine par... T'es une semaine par mois où oh oui. tu travailles de soir. Puis même principe pour la fin de semaine. T'en mets deux la fin de semaine. Puis ils accueillent des clients. Toi, je veux dire, ça va te donner quoi? Mettons, t'es 12, ça va te donner une fin de semaine sur 6, une fin de semaine sur 7. T'sais, on leur demande pas d'être disponible 24 heures sur 24. On leur demande juste de réaménager leur horaire de façon différente pour répondre aux besoins de la clientèle. Moi, je pense que ça fait plein de sens.
Ah, puis, tu sais, je vais te dire, au salaire qu'on les paye, là,
aussi,
parce que c'est nos impôts qui les payent, au salaire qu'on les paye, pas beaucoup demandé, je trouve.
Non, exactement. Pause publicitaire du côté de l'émission On en jase. Merci de continuer à interagir au 418-971-1021. Par la suite, on va faire un gros tour d'actualité. Puis je veux vous demander, vous, chers parents, là, achetez-vous cheap pour vos fournitures scolaires. On va parler d'une enquête qui a été faite par le journal Le Soleil. Hey, Boulevard 101, on a des belles annonces pour vous, ça s'en vient. Mardi le 18 août, aux alentours de 7h30 dans Marceau le matin, soyez à l'écoute. On va vous présenter deux nouveaux visages pour la station Boulevard. Je suis très excité, je ferai pas de cachette, je les sais. Je les dirai pas en onde parce que mes patrons vont me congédier dans la seconde qui suit. Mais très, 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 très excité. Ça va être positif à l'os pour les auditeurs de Boulevard, pour notre belle équipe de Boulevard 102.1. Donc, soyez-y, 7h30, mardi prochain, le 18 août. C'est les annonces qu'on va faire. Tant qu'à être dans les annonces, je vous rappelle, c'est le match des Capitales Boulevard 102.1. C'est jeudi prochain, le 20 août. Les Capitales vont affronter les Miners de Sussex County. Et je viens de voir une méchante éclair, Mathias, pendant que je te parlais. L'orage s'en vient, malheureusement, guys, sur Québec. Il y avait un risque d'orage cet après-midi, ça s'en vient. C'est 23 degrés à l'heure actuelle. Mais écoutez, après cet orage-là, on va être clair pour le week-end. Donc, c'est un mal nécessaire. Puis, Mathias, pour faire du pouce avec le sujet qu'on avait, Krim, l'orage va tomber dans des heures favorables, car les gens travaillent.
Dans les heures ouvrables, tu sais.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais ça, c'est une bonne chose que ça tombe pendant
ben,
qu'on
oui,
travaille.
Ça, c'est des vraies heures favorables. Hey, quand j'entends que les heures défavorables, c'est des heures défavorables pour les médecins, vu que c'est la fin de semaine, puis le soir, c'est pas pour la clientèle. Bref, match Boulevard. 20 août, parce que là, je m'égarais. 20 août, capitale de Québec. J'ai une de mes amies qui me textait un matin. Elle me dit, Jeff, merci d'en parler à chaque jour dans ton émission. On en jase du match des capitales. C'est fait. Je suis jamais allé au capital de ma vie. J'ai acheté 10 billets. M'en va là avec ma gang.
Hey, 10 billets, c'est pas pire, ça.
Elle dit, je veux vivre le trip. En passant, les capitales de Québec ont gagné encore hier. Ils ont gagné par la marque de 10-4. Le joueur d'haricots, Kyle Crowell, sûrement un des joueurs les plus aimés du public parce que ça fait quoi, au moins 5 ans qu'il est avec les Capitales, a frappé un coup de circuit pour un quatrième match consécutif. Les Capitales ont une fiche de 54 victoires et 25 revers. Ils sont premiers dans la division Nord. Ils ont 4 championnats consécutifs. Puis malgré ça, ils offrent la bière à 4$ puis la poutine à 3$. Je vous ai-tu convaincu, pas encore? Le gin est à 50% le jeu du soir.
T'as des bons arguments.
Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans mon entourage qui va acheter 10 billets ou un auditeur dans à peu près les 10 prochaines minutes avec ces arguments-là.
Hey, l'alcool pas cher, la bouffe pas chère, puis un bon show.
Exactement. Hey, parlant de bon show, Mathias, c'est un de mes bands préférés de l'adolescence qui fête ses 35 ans, d'accord? Là, c'est une de leurs chansons les plus douces, The Messenger. C'est Tea Party. Moi, je suis tombé en amour avec Tea Party. Attends, on va écouter un peu. Got a letter from a messenger. Quelle voix! Moi, je suis tombé en amour avec Tea Party au Festival d'été de Québec à l'époque. À l'époque que le festival de thé était vraiment plus petit, on s'entend. On venait de commencer ses plaines, mais pour te montrer, la scène était pas mal au bas de la butte. On rentrait un 20, 25 000, c'est plein.
C'était pas un 100 000.
Non. C'était à l'époque où on se promenait dans la rue pendant le festival d'été, puis il y avait des vendeurs qui nous vendaient des macarons, là.
OK.
Fait que t'avais même pas de casser à la tête, là.
T'étais sûr d'avoir une passe.
Ouais, tu disais à soir, T'es Party au festival d'été à soir, puis moi, c'est vraiment comme ça que ça m'était arrivé. Mon frère, elle est là avec sa blonde, il avait dit, hey, je vais avoir Tea Party, t'as dit ça touche. Ouais, j'ai entendu parler de ce Ben-là, il paraît que c'est bon. Ouais, je vais vous accompagner si ça te dérange pas. Il est genre 5 heures l'après-midi, là. Ouais, pas de trouble, regarde, on part dans une demi-heure, parfait. Part, bing, arrive à Hauteville, tu m'en donnes un macaron, ouais, 25$, ok, parfait, donne-moi ça, bing, rentre au show. C'est ça, le festival d'été.
C'est plus ça maintenant.
Ouais.
Mon Dieu.
Là, ils vont fêter leurs 35 ans de succès. Après ça, je les ai revus à Expo Québec deux fois. Je les ai vus au Capitole de Québec. C'est un Ben qui est tellement généreux en show. Et leur chanteur parle français. Donc, c'est super intéressant. C'est une interaction extraordinaire. C'est Jeff Martin. C'est une interaction extraordinaire, justement, avec le public. Puis, honnêtement, Jeff Martin, à l'époque, le cœur des femmes...
Il a gagné assez facilement.
Oui, exactement. Ils vont fêter leurs 35 ans de carrière. C'est 8 albums studio. C'est 2 millions d'albums vendus. C'est un Ben canadien. Et ils vont fêter ça où? À l'amphithéâtre de Trois-Rivières, l'amphithéâtre Cogeco. Le groupe Perseid assurera l'ambiance avec des sonorités pop-rock, tandis que le bistrot de l'amphithéâtre proposera nourriture et rafraîchissement. Les billets sont seulement à 40$ plus taxes sur le site de l'amphithéâtre Cogeco. C'est samedi le 22 août prochain. Sais-tu quoi? Je cherchais quoi faire samedi le 22 août prochain, puis je t'explique parce que j'étais censé aller au Vans Rupture Tour. Mais finalement, j'y vais pas parce que dans la journée, les gars à Val du 22 août ont un tournoi d'Ultimate Frisbee. Mais je l'ai bien dit, c'est dans la journée. Trois-Rivières, c'est pas loin.
T'as trouvé ton alternative?
Ouais, mon gars Edou fait un party chez nous. Je vais essayer d'y laisser la maison. Fait que d'après moi, Val, si t'es à l'écoute, je te le dis, le 22 août en soirée, on va être à l'amphithéâtre Cogeco, puis on va se prendre une petite chambre d'hôtel à Trois-Rivières.
OK, tu prévois ça de même, toi.
Edou va faire son party, puis nous autres, on va s'amuser, parce que en plus, le lundi, c'est la fête de Maldieu du ciné, le 24.
Oh!
On pourrait avoir une petite sortie pour sa fête. J'espère qu'il est encore au micro-ondes en train de faire chauffer son lunch.
OK, là, t'es en train de réfléchir, ça pourrait faire une belle surprise, puis je viens de dire en onde.
C'est ça, les animateurs de radio. c'est comme ça, que veux-tu? Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité, Mathias?
Oui, je commence par le Parti conservateur du Québec qui a annoncé aujourd'hui prévoir de couper drastiquement les dépenses de l'État pour économiser un total de 47 milliards de dollars sur 5 ans. La première partie sera une réduction des subventions directes en mettant fin au Fonds de développement économique. Cela permettrait d'économiser 20 milliards sur 5 ans. Les autres 23,5 milliards d'économies se feront en resserrant les dépenses de l'État. Les conservateurs proposent entre autres un gel permanent des embauches dans la fonction publique et une réduction des effectifs de 5,6% par année, par attrition notamment. Tout ça sans toucher au service des citoyens.
Va falloir vraiment que j'aie les preuves pour le Parti conservateur du Québec de leur montage financier parce qu'on a promis des baisses d'impôts historiques pour les entreprises, pour les particuliers. Là, on veut couper 47 milliards. Je veux juste avoir les preuves. Je trouve que c'est des belles idées. Je trouve que c'est des belles initiatives. Ça va mettre la pression sur les autres partis politiques, mais il ne faut pas que ça devienne des idées farfelues.
Une personne est demeurée coincé sur la tyrolienne aux chutes Montmorency. Ce qu'on nous explique, c'est que l'événement s'est produit hier. La personne qui n'aurait pas pris assez de vitesse pour sa descente en tyrolienne, ce qui a fait en sorte qu'elle est restée en plein milieu, coincée dans le vide sur la tyrolienne. Elle a été immobilisée pendant un court moment, le temps qu'un employé puisse intervenir pour lui porter assistance. La Caisse de dépôt a effectué un faible rendement de 5,1% pour les 6 premiers mois de l'année. C'est nettement inférieur à son indice de référence qui a progressé à 7,5%, donc 2,4% en dessous. Les placements dans des entreprises non cotées en bourse, ce qui a le plus affecté négativement la Caisse dans son rendement pour le début de l'année.
Est-ce qu'on pourrait dire que la Caisse de dépôt pourrait revenir à sa mission première, c'est-à-dire augmenter le bas de laine des Québécois? Parce que là, je comprends qu'ils se sont créés une section infrastructure, puis là, qu'ils tripent REM, puis tramway, puis transport électrique. Là. Mais ils perdent de l'argent avec ça.
Initialement, c'était dans un objectif de faire le plus grand nombre de profits possible.
Exactement. Donc, moi, j'espère qu'on va faire un examen de conscience. Puis là, je comprends qu'il y a des conjonctures économiques différentes avec la guerre en Iran, etc., puis la guerre tarifaire. Mais quand même, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, est-ce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec s'est trop éparpillée puis a oublié sa mission première? Puis ça, soit dit en passant, là, il y a plein d'organisations qui font ça. Là. C'est pas juste la Caisse de dépôt. Là. Il y a des organismes communautaires qui vont se mettre à s'éparpiller, à offrir 20 services, puis ils vont les offrir à moitié au lieu d'offrir leurs 5 services qu'ils offraient bien. Il y a des entreprises aussi qui font ça, qui prennent de l'expansion trop rapidement. Puis là, ils se mettent, exemple, une chaîne de restaurants qui va se mettre à en développer 5. Puis là, à un moment donné, ben, t'es à bon dans pizza, puis t'es moins bon dans le poulet, mais là, ta pizza est rendue moins bonne. T'sais. Donc, je trouve que la Caisse de dépôt et de placement, moi, je suis très externe, je suis pas un spécialiste, mais je trouve qu'on s'égare. Puis là, on a des mauvais résultats. J'espère qu'on va faire un examen de conscience de dire, OK, quelle est notre priorité? La priorité, c'est de gérer le bas de laine des Québécois.
Et le secteur où on a eu le meilleur rendement, c'est dans les marchés boursiers, bien entendu, à 14,6% de rendement. Donc, c'est quand même pas mal plus élevé que le 5,1% général du total. L'épidémie de rage du raton laveur continue de s'étendre au Québec après l'Estrie et la Montérégie. On est maintenant dans le centre du Québec. Donc, un raton laveur qui avait la rage a été retrouvé près de Drummondville. Donc, peu à peu, on semble s'approcher de la capitale nationale ou encore de Chaudière-Appalaches. Le ministre de la Défense du Canada, David McGuinty, a réagi au recul du français dans les forces armées canadiennes aujourd'hui. On apprenait la semaine dernière que la langue de travail dans plusieurs organisations des forces armées deviendra uniquement l'anglais, au lieu d'inclure le français également. Le ministre a affirmé aujourd'hui prendre les préoccupations à ce sujet au sérieux et qu'il assure que les Canadiens pourront toujours recevoir des services dans les deux langues. Pour ce qui est de la langue du travail, il a annoncé un examen et une révision au sein des unités des Forces armées canadiennes. 10 enfants sont morts à la suite d'un accident en trottinette électrique ou vélo électrique en 2025 au Canada.
C'est énorme!
Les chiffres du programme canadien de surveillance pédiatrique note aussi 26 enfants hospitalisés pendant plus de 2 jours.
Aïe, aïe, aïe.
Et si on se fie aux chiffres qu'on a eus du côté de l'hôpital de Montréal, qui avait reçu 80 jeunes depuis le début du mois d'août en 7 jours seulement, on peut déduire facilement que le nombre risque de fortement augmenter pour l'année 2026.
On est vraiment rendu avec les trottinettes électriques à légiférer. Puis là, j'ai réfléchi à ça parce qu'on en avait parlé en début de semaine. On avait regardé ce qu'ils faisaient en Europe. Si je me souviens bien, c'était en Allemagne qu'il y avait des plaques d'immatriculation, en Italie qu'il y avait des assurances. Puis là, j'ai pensé, puis je me suis dit, OK, si la trottinette électrique peut aller jusqu'à 70 km/h, c'est qu'elle peut aller à peu près à la même vitesse qu'un scooter. Puis pour conduire un scooter,
ça te prend
un permis. Passes par la SAAC. Faut que tu aies une plaque d'immatriculation, faut que tu aies fait un cours, puis tu peux utiliser nos routes. Avec le bilan catastrophique qu'on a, on est rendu là, je pense.
De trouver le moyen, sinon, de faire en sorte que les trottinettes soient bloquées à 25 km/h.
Oui, exactement. Tu sais, un des deux, parce que là, c'est un engin qui va beaucoup trop rapidement pour des adolescents qui se lancent là-dessus. Sans avoir eu une moindre seconde de pratique.
Parce que je le rappelle, la limite de vitesse en trottinette électrique est de 25 km/h, puis c'est 14 ans et plus pour en conduire une aussi. C'est pas normal de voir des trottinettes circuler à 50-60.
Non, exactement. Fait que est-ce qu'on augmente l'âge? Est-ce qu'on resserre la vis, justement, en mettant ça à la même place, dans le même courant que les scooters? Bien, votre idée est aussi bonne que la mienne, mais on ne peut plus être dans l'immobilisme avec ce dossier-là. C'est des enfants qui meurent.
Et je termine avec en vous rappelant qu'une entente entre le Québec et Terre-Neuve sera officialisée en lien avec Churchill Falls la semaine prochaine. Cette entente qui viendra donc remplacer l'entente de protocole qui avait été signée sous François Legault en 2024. On a eu une réaction des différents partis d'opposition qui demandent entre autres à ce qu'on rende public les détails de cette entente. Le gouvernement Fréchette a répondu en disant attendre que ce soit officiel pour vrai puis que l'entente soit vraiment signée pour le faire.
Puis le PQ a dit maudit Canada.
Ça ressemble à ça.
Il n'y a rien qui a changé là-dedans. Nous sommes saisonniers dans un camping et les trottinettes électriques sont vraiment dangereuses. Le maximum est de 8 km/h dans notre camping pour les autos, mais les trottinettes électriques vont presque à 40 km/h. Oui, si tu veux préciser, je suis certain qu'il y a des chemins de gravel là-dedans aussi, puis plein de choses. Donc, en effet, c'est rendu un fléau. Il y en a énormément, que ce soit sur les pistes cyclables, sur les rues, sur les trottoirs. Donc, c'est vraiment difficile. Puis, je lève petite mention au fils de Justin Trudeau, 18 ans. Ouais. Faites un petit TikTok, hein, me semble, c'est ça? Hein? Un petit TikTok,
ouais,
sur podcast. Sa trottinette, podcast. Justin, si tu m'entends, tu peux revenir t'occuper de tes enfants. Là. La récréation est terminée avec Katy Perry. Là. Tu peux prendre soin de tes enfants. Tes pères de famille, je sais que tu as toujours rêvé d'être rockstar, mais tes pères de famille, Justin, tu as une responsabilité.
Le midi.
Tombe bien, Mathias, on parle de parents. Quand t'es parent, c'est en ci de l'année, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh my God. Les fournitures scolaires.
Parce... C'est votre moment préféré de l'année,
ah,
ça. Hein,
tout le monde aime, ouais, ça. Ah oui. Honnêtement, je connais pas vraiment de personne qui aime.
C'est un peu comme un déménagement. Là. C'est, oui, une année, mais au sein de la société, personne n'aime ce moment-là dans,
exactement,
l'année.
Exactement, parce que là, tu te retrouves à un endroit, puis là, tu vas chercher les fournitures scolaires, mais tu sais, les crayons, c'est la rangée 1, puis là, l'école te spécifie que c'était tel crayon que tu voulais, puis là, mais il y en a 50 marques, fait que tu le trouves pas. Fait que là, tu dis au petit commis, viens donc m'aider, j'ai besoin de ce crayon spécial-là. Là, il t'aide. Mais là, après ça, faut que tu ailles chercher des cartables. Mais les cartables sont dans rangée 8. Mais si tu suis la liste, après ça, tu vas retomber sur des Duotang qui sont dans rangée 3. T'sais, c'est jamais toutes dans la même rangée.
Ça me donne hâte, Jeff.
Ouais, exactement. Puis là, ben, si vous êtes comme moi, chers parents, vous avez reçu le courriel de la rentrée scolaire hier de votre école qui explique quand est-ce que ça commence, les horaires, quand est-ce qu'il va y avoir des journées pédagogiques, etc., etc. Bref, le calendrier scolaire. Et là, il y a eu une très belle enquête de la part du Soleil qui a été faite concernant les fournitures scolaires. Est-ce que les fournitures scolaires coûtent moins cher ou plus cher qu'en 2025? Mais moi, la question que j'ai le goût de vous poser, c'est... acceptez-vous d'être cheap avec les fournitures scolaires? T'es, acceptez-vous d'acheter l'affaire qui coûte le moins cher pour votre enfant? Moi, j'ai toujours, puis c'est mon ami Jean-Michel qui m'a donné cette citation-là, j'ai toujours dit, je suis trop pauvre pour acheter cheap. Pis je t'explique, mes enfants jouent au hockey. Je suis trop pauvre pour leur acheter les patins les plus cheap, je leur achète la moyenne gamme, parce que je le sais que le patin le plus cheap, il t'offre peut-être pas à saison, puis que ça va me coûter encore plus cher.
Fait que tu veux te prévoir d'avance pour que ça te toffe, je comprends.
Exactement. Je veux pas que ça scrappe.
Fait que t'as la même logique pour des fournitures scolaires.
Oui, mais là, l'enquête, puis c'est pour ça que je pose la question aux parents, est-ce que vous achetez cheap? Achetez-vous des choses qui, justement, sont un petit peu plus chérantes, mais que vous savez que ça va durer? Parce que dans l'enquête du Soleil, quand ils font la comparaison 2025-2026, pour le primaire, OK? Le panier le moins cher de fournitures scolaires, puis là, ils ont pris une école primaire à Québec, la liste de fournitures scolaires. Pour le secondaire, ils ont pris également une école secondaire à Québec. En 2025, c'était 69,84 le moins cher, et ça se retrouvait au Jean Coutu. Ils ont comparé le Jean Coutu, le Walmart, le Dollarama et le Bureau en gros. Venait très, très, très près le Dollarama à 70,25 et le Bureau en gros à 70,89. Puis Walmart était dans le champ 88,45. En 2026, c'est le Dollarama qui l'emporte à 55 $. C'est une différence avec le plus cher qui est le Bureau en gros de 11,85 $. Pour le secondaire, l'an passé, c'était le Dollarama également qui l'emportait à 61,70 $. Son plus proche poursuivant était le Jean Coutu à 76 $, donc quand même un 15 $ de différence. Et là, c'est toujours le Dollarama, cette fois à 68,95 $. Et le plus proche, c'est le Jean Coutu à 71,18 $. Je veux pas faire de la mauvaise publicité pour le Dollarama, mais moi, quand je vais acheter des choses au Dollarama, malheureusement, on dirait que ça t'offre moins longtemps.
Ben, c'est là... fait, ça coûte pas cher, c'est fait cheap. Là. On
c'est
va pas
ça.
Se mentir.
Fait que c'est là ma question aux parents. À quel endroit vous allez magasiner pour vos fournitures scolaires? Puis est-ce que vous vous dites comme moi, ouais, je vais l'investir là, 11 $ de plus pour mon enfant primaire, puis je vais aller à Bureau en gros, parce que je sais que la qualité va être supérieure.
Puis s'assurer que ça t'offre une couple d'années. Genre, je sais que les listes de fournitures scolaires sont pas mal pareilles à chaque année, mais mettons pour le secondaire. Moi, mon souvenir, puis ça fait pas 26 ans non plus, là, ça fait quelques années, quand j'étais en secondaire 4 et 5, ben j'allais pas acheter des fournitures scolaires avec ma mère. Là.
Non.
J'avais mes crayons à mine, j'avais mes surligneurs qui marchaient plus vraiment, puis ça me dérangeait pas. J'avais un seul cartable pour toutes mes matières.
Exactement.
Puis j'avais ma calculatrice puis mon compas, fait que rendu en secondaire 4-5, j'avais mes affaires qui me toffaient. Puis je retournais plus magasiner.
Écoute, moi, mon Edou s'en va en secondaire 5, là, on va peut-être racheter un ou deux crayons. Puis ça va être parce que lui va nous dire hey, écoute, ce crayon-là ne marche plus, puis j'en veux un autre. Là. Mais pour le reste, là, exactement, on va faire de la réutilisation. Par texte, on nous parle du Club Jouet. Un partenaire de Boulevard 101, donc on va le mentionner, où on fait la commande en ligne et la livraison 24 heures à la maison, pas bien plus cher en plus, donc ça vous tente d'essayer ça, puis d'éviter le casse-tête des rangées, comme je vous disais, c'est une très bonne alternative. Marie qui nous dit aussi qu'elle est au Club Jouet, vois-tu, c'est pas mentionné dans l'enquête, ça serait intéressant, on va essayer de parler avec la journaliste pour qu'elle puisse l'ajouter, mais bref, moi je te le dis, puis je veux pas faire mon frais chier aujourd'hui en ondes, j'ai toujours accepté de payer un 15-20$ de plus, mais en sachant que ça allait toffer, puis que je serais pas obligé de me relancer dans d'autres achats en cours d'année scolaire.
Ah, puis tu sais, tu parles de l'aspect que quand tu dois te relancer dans d'autres achats en cours d'année, ça finit par te coûter plus cher. Mais ça te tente-tu de retourner acheter des fournitures scolaires en plein milieu de l'année aussi?
Ouais,
là? On parle du coût, oui, du coût monétaire, mais dans la vie, tant c'est un peu d'argent aussi. Là, ça te tente-tu que ça brise en plein milieu puis que tu doives retourner acheter ces mêmes fournitures-là? Je pense que c'est un penser si bien aussi.
Exactement. Un enseignant qui nous dit hey, « je travaille dans le milieu scolaire, puis les crayons de plomb, Dolorama, je vous le dis, c'est d'aucune qualité. La mine casse tout le temps. J'ai des élèves qui peuvent quasiment passer un crayon complet dans une journée. » Fait que d'où l'utilité de l'acheter ailleurs. Jean-Mathieu qui dit « Hey, ma blonde tripe bien raide d'acheter fournitures scolaires, puis elle va presque toujours aux gens coutus. Elle trouve tout. » Donc, continuez à nous texter au 418-971-1021.
Fait qu'on a trouvé quelqu'un qui aime ça. Aller acheter des fournitures scolaires, c'est ça que j'en comprends.
Quel est le nom de ta blonde, Jean-Mathieu? S'il vous plaît.
Elle n'est pas en majorité, là.
C'est ça. Je demande ça pour une amie à qui je veux faire une surprise avec Tea Party. T'sais. Peut-être qu'il y a la blonde à Jean-Mathieu pour aller acheter des fournitures scolaires.
Ah, ben oui.
On pourrait bien faire. Dans notre temps très chargé. Si la blonde à Jean-Mathieu aime ça. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit.
Plusieurs parents vont vouloir l'engager après.
Oui. Plus sérieusement, Mathias, au niveau de la marine américaine sur le USS Lincoln, on parle d'une vague de suicides. C'est Luc La Liberté qui veut nous parler de ça au retour de la pause. Très inquiétant ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'armée américaine.
On en jase.
Je préviens, on jase.
Êtes-vous comme moi? Êtes-vous un tripeur de baseball? Je vous ai parlé des Capitals tout à l'heure qui ont énormément de succès encore une fois cette année. Je vous le rappelle, 20 août, le match Boulevard 102-1 au Capital de Québec. Max Larouche qui va faire le lancer protocolaire. Mais là, notre équipe du Canada, les Jays de Toronto, sont complètement en feu. Troisième victoire consécutive face aux Red Sox de Boston. Ça s'est passé hier, un gain de 6-4. Les Jays, quand je suis allé les voir, il y a de cela quelques semaines, dans mon voyage, ça fait 2 semaines, dans mon voyage à Toronto, on disait « ils ne feront pas les séries, les Jays, cette année, malgré que l'an passé, ils ont passé à 2 retraites gagner la Série mondiale. » Eh bien là, sont de retour au plus fort de la course aux séries, avec une séquence de 7 victoires à leurs 9 derniers matchs. Ils sont à 1,5 match des éliminatoires. Donc, ils sont à 2 victoires de faire les éliminatoires. Bon, ils ont encore 4 équipes à dépasser, mais au rythme où ils vont...
Tu y crois-tu?
Ils ont une des meilleures défensives du circuit. Ils ont vraiment des lanceurs solides. La relève est solide. Ils ont des bons lanceurs partants, notamment Dylan Cease. l'attaque est vraiment au ralenti depuis le début de la saison. Fait que, est-ce que j'y crois? Non, parce que notre meilleur joueur, Vladimir Guerrero Jr., malheureusement, est dans une mauvaise saison. Mais est-ce que en tant que partisan, ça m'excite puis je vais les encourager jusqu'à la fin? Oui.
Mais d'avoir une équipe qui gagne au moins puis qui rivalise match après match, ça fait une différence.
Vraiment.
Le Canadien, qu'on a commencé à jouer comme du bon sang, mm-hmm. puis qu'on était capable de rivaliser chaque soir, ben, ça devenait beaucoup plus intéressant, même si on ne faisait pas des séries pour autant.
Ben oui. Alors, les joueurs, les gens qui ne travaillent pas à des heures défavorables, donc c'est-à-dire vous finissez vers 14h, ben c'est le fun pour vous. Cet après-midi, 15h07, vous allez pouvoir écouter le match des Jakes. Parce que c'est cet après-midi contre les Red Sox de Boston. Le quatrième match d'une série qui était très importante. Et les Jays ont remporté, justement, les deux premiers matchs.
Faire un tour rapide à la circulation parce que c'est très difficile là, dans certains secteurs, notamment 20 direction ouest. Je sais que c'est tout le temps difficile, mais en ce moment, ça l'est particulièrement pour 13h29 entre Monseigneur Bourget et Taniatas au rouge. Guillaume Couture en direction ouest, hauteur chemin du fleuve, ralentissement aussi. Sur la rive nord, vous mentionnez Capitale direction est entre Pierre-Bertrand et Neuviade. C'est au rouge, Laurentienne direction sud pour accéder à Capitale, un peu d'attente. Dans le secteur de Le Bourgneuf aussi, là, vis-à-vis Pierre-Bertrand, il y a quand même pas mal de trafic en raison de travaux dans le secteur. Et je termine en vous mentionnant Carré 4, direction sud, à hauteur de Charest. Un peu d'attente aussi, quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021, c'est par texto.
Avant de parler à Luc Laliberté, je vous invite samedi le 29 août au Port de Québec parce que c'est la grande fête du Port de Québec. C'est un événement qui, à chaque année, met à l'honneur le monde maritime et portuaire dans une ambiance familiale, festive et rassembleuse. C'est l'occasion de rencontrer plusieurs opérateurs maritimes passionnés qui seront sur place pour faire découvrir leur métier, vous partager leur quotidien. Puis ça, là, les petits-enfants vont être impressionnés, puis les ados vont en apprendre plein d'informations. Alors, c'est une sortie qui est entièrement gratuite. C'est un super rendez-vous familial. C'est le 29 août au Quai Saint-André devant l'Oasis du Port de Québec. On va couper un petit peu de Tea Party pour aller rencontrer Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu, mon ami?
Je vais particulièrement bien. J'espère qu'il en va de même pour vous deux et bien sûr pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
En tout cas, si je parle pour moi, Luc, ça va très, 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 très bien. Hey Luc, il y aura un problème de suicide au niveau de l'armée américaine, au niveau de la marine. Peux-tu nous en parler plus?
Oui, écoute, la nouvelle circule de plus en plus. Là. Hier, déjà, on avait des infos à ce sujet. Ce matin, le sujet a gagné en importance. Et en fait, ce sont des familles de marins qui sont à bord du USS Abraham Lincoln. C'est un porte-avions, c'est un navire qui est très important, qui est déployé dans le cadre des opérations en Iran. Et les familles disent, écoutez, la vie à bord des porte-avions, surtout depuis le changement d'administration, surtout sous la direction de Pete Hegseth, c'est devenu problématique. On a des problèmes de rationnement, des problèmes d'eau potable, des bris à bord. Et ce qu'il faut noter, avant de poursuivre, c'est qu'on est déployé de plus en plus longtemps à bord de ces porte-avions sans accoster et sans retourner à la maison. Les marins dont on parle, dont les familles déplorent l'état de santé mentale, ce sont des gens qui approchent des records des gens déployés en mer. Donc, on a franchi ou on a passé le cap des 250 jours sans accoster.
Hey, c'est énorme!
On rapportait ce matin un incident, donc contact physique entre des marins, et semble-t-il qu'il s'agissait d'éviter le suicide de l'un d'eux, et d'autres auraient menacé de le faire. Donc, on est déployé très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qui était conseillé et que ce qu'on préconisait avant. On est confronté à des problèmes de recrutement, donc au sein des troupes, ce qui explique qu'on les déploie plus longtemps qu'avant, parce qu'on manque de personnel souvent pour assurer la relève, ce n'est pas à la hauteur. Et là, on en est au point où, en plus des différentes problématiques, on parle d'un problème criant de santé mentale. Donc, des gens qui sont coupés, dans certains cas, de l'essentiel, mais de leurs proches ou d'une vie normale sur une plus longue période. Et tu devines ou vous devinez qu'il y a des retombées majeures à ça. Tout d'abord, sur la scène internationale, ça se produit alors qu'on a l'impression que le conflit iranien est un véritable bourbier. Mm-hmm. Ça se produit où l'administration est critiquée même par ses alliés, que ce soit à mots couverts ou des critiques directes. Et tout ça se passe en plus alors qu'on vote au mois de novembre. et que dans les sondages aux États-Unis, un des points choquants ou un irritant majeur pour les électeurs, au-delà de l'économie, de l'inflation, du coût de la vie, c'est le conflit iranien et ses retombées sur l'économie américaine. Donc, un très gros dossier, puis en termes de synchronisme, un dossier qui vient entacher l'image des États-Unis sur la scène internationale, puis provoquer une méchante gestion pour l'administration Trump et pour le secrétaire à la Défense ou à la guerre, Pete Hegseth.
On manque beaucoup de transparence du côté de l'administration Trump dans le conflit en Iran. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais les vraies données ou statistiques, là, que c'est moi qui en a trop contre Donald Trump et son administration?
Je pense effectivement, il y a un manque de transparence et il y a autre chose vers lequel je vais pointer. Et on le fait en tout respect, bien sûr, de la hiérarchie puis du service de ces hommes et femmes dans les forces armées. Mais j'ai l'impression que les généraux refusent de confronter ouvertement Donald Trump, alors qu'il y a de très nombreuses problématiques. On a eu la pointe de l'iceberg la semaine dernière quand le général Dan Kane, qui est à la tête des chefs d'état-major, les principaux conseillers militaires du président aux États-Unis, quand lui-même est revenu sur les mises en garde qu'on avait servies au président et sur la nécessité de revoir la stratégie pour sortir d'Iran, j'ai l'impression qu'on a eu vraiment que c'est la partie visible d'un mouvement qui est beaucoup plus profond. Et on ne les entend pas, les généraux, et c'est un peu normal. C'est la chaîne de commandement et le président américain est le commandant en chef. Mais il me semble que dans plusieurs dossiers, non seulement c'est opaque, non seulement on n'a pas accès à de l'information, mais qu'on écarte finalement les mises en garde ou les conseils des généraux, ceux qui normalement, en termes d'opérations militaires, sont les premiers concernés.
Donc, ça fait en sorte qu'à l'heure actuelle, on est dans ce bourbier-là. Là, on se chicane encore avec l'Iran, savoir qui détient. Est-ce que le détroit d'Hormuz est réouvert ou non? Mais là, je pense pas qu'il soit réouvert à l'heure actuelle, parce que sinon, on en ferait une grande victoire du côté des Américains.
Oui, puis le président donne l'impression de jouer, en tout cas, du moins dans ce qui circule, dans ce qui se rend jusqu'à nous. Il donne l'impression de donner du temps encore à la diplomatie. Mais il semble avoir cédé ou abandonné, en tout cas, certains sujets. Parce que ce dont il est question dans les derniers jours, on suit ça depuis des mois, il y a une partie des explications, des justifications américaines pour ce conflit dont on n'entend plus jamais parler. L'accent semble être résolument placé sur le détroit d'Hormuz. Et ce sont d'autres joueurs que les États-Unis qu'on entend qui ont des responsabilités ou qui effectuent des interventions. On a déjà parlé ensemble du sultanat d'Oman, hein, qui est tout près, ce fameux canal qu'on voudrait ouvrir avec l'Iran, mais on a besoin des États-Unis pour le faire. On a parlé de l'Arabie saoudite, mais vous remarquerez tout le monde qu'on n'entend plus parler du nucléaire. Mm-hmm. Et le nucléaire, c'était la grande raison qui permettait d'espérer que finalement les Américains soient derrière nous, si on parle de l'administration Trump. Et de ça, on ne parle même plus. Et ça demeure préoccupant. Quand on dit est-ce qu'on est dur avec l'administration Trump, on n'a pas eu le détail sur pourquoi on est entré dans la guerre. On continue de penser que c'est surtout grâce à l'intervention d'Israël, c'est-à-dire qu'on a répondu favorablement à la demande de Netanyahou. Mais qu'ensuite, on ait pu affaiblir l'Iran et qu'on sorte d'Iran une menace potentielle qui était l'enrichissement de l'uranium, je pense que à peu près n'importe qui dans les démocraties occidentales pouvait être en faveur de ça. On l'a déjà dit, je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien, puis ce qui peut l'affaiblir et freiner les menaces, je ne peux qu'appuyer. Mais là, on a l'impression que l'angle le plus sérieux auquel on s'attaquait, qui était le nucléaire, nous n'en discutons même plus. Ça semble très limité au détroit, et effectivement, à court terme, ne retenez pas votre souffle, si on trouve des façons différentes d'acheminer du pétrole, des vivres, des denrées, il reste qu'on a quand même bloqué une voie de navigation qui est particulièrement importante.
Clairement. Luc, du côté de l'administration Trump également, on a eu la perte hier de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Moi, je vois ça comme une grosse perte pour l'administration Trump parce que, avec son jeune âge, avec sa prestance, elle était capable d'aller chercher ce jeune Américain-là indécis vers les Républicains. Fais-tu la même analyse que moi?
C'est assurément une grosse perte parce que je ne sais pas si les gens se souviennent, ça passe tellement vite et il y a tellement d'infos, Dans le premier mandat de Donald Trump, on a eu plusieurs porte-paroles qui se sont succédées. Mm-hmm. Et on a fini par avoir une qui était stable, qui est Sarah Huckabee Sanders, donc la fille de l'ancien gouverneur de l'Arkansas. Donc, on a eu Mme Huckabee Sanders qui a un peu fait le même travail, mais je dirais entre guillemets, puis je fais attention au terme, mais avec moins de charme, dans le sens, effectivement, là où Caroline Leavitt, quand même, a une image qui peut être présentée favorablement, Sarah Huckabee Sanders, c'était vraiment « je vais mettre au pas les journalistes ». Donc, Trump avait trouvé, ou l'administration Trump avait trouvé une porte-parole qui, dans les pires tempêtes, n'a jamais fléchi, n'a jamais cédé et a accepté de défendre un grand nombre d'informations fausses, voire carrément de mensonges. Et ce qui fait jaser aux États-Unis, il y a deux angles. Bien sûr, on perd quelqu'un si on voit ça de l'administration, dont on ne doute pas, mais absolument pas de la loyauté, quelqu'un qu'on peut envoyer au front, même avec les dossiers Epstein, et qui va faire le travail aux yeux de l'administration. Ce qui a fait beaucoup jaser, c'est le synchronisme. C'est qu'on sait maintenant que le président Trump, au retour donc d'Ankara sur un vol, a été appelé à changer d'avion. Il est passé du nouveau Air Force One offert par le Qatar à l'ancien Air Force One. Il y a des gens, des membres de son personnel qui l'ont suivi. Mais pas Caroline Leavitt, qui est restée à bord de l'avion pour lequel on s'inquiétait d'une attaque iranienne.
C'est intéressant. Et là, les gens disent,
voilà, et là, les gens disent, ben, est-ce que Caroline Leavitt aurait décidé finalement, avec en passant une explication qui se justifie quand on la connaît, mais est-ce qu'elle n'aurait pas décidé qu'elle débarquait pas juste de l'avion, mais du train de l'administration Trump en raison de cet abandon finalement du président? Parce que le motif officiel, le seul qu'on ait entendu sur Truth Social par le président et de la part de Caroline Leavitt elle-même, et ça se tient, elle en est à un deuxième enfant, Caroline Leavitt. Ses valeurs familiales sont connues, elle a déjà pris un congé et son motif maintenant pour quitter, c'est « je veux passer plus de temps avec ma famille, mais en même temps, je reste comme conseillère du président, une conseillère spéciale ». Mais retenez le synchronisme, c'est de ça beaucoup dont on a discuté aux États-Unis. Est-ce qu'elle quitte parce que le président l'aurait, entre guillemets, largué au moment du changement d'avion?
Ça peut faire partie, évidemment, de la réponse. Si je suis une jeune mère de famille, ça ne me tente pas d'être sacrifié par Donald Trump dans un avion qui va être attaqué. Je suis convaincu de cela. Luc, la liberté, toujours un bonheur de te parler. On se reparle bientôt.
Plaisir partagé. Une bonne journée à tout le monde, aux auditeurs, auditrices en premier.
Salut Luc. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Allez voir ça, c'est des capsules de 5-6 minutes. C'est des résumés parfaits de ce qui se passe au niveau de la politique américaine. Mathias, t'en penses quoi de Caroline Leavitt?
Ben en même temps, Jeff, si t'étais dans la garde rapprochée de Donald Trump, que tu te mettais sur l'espace public à dire, tu sais, à répéter des mensonges que le président dit, puis un peu détruire ta crédibilité par le fait même,
ah oui.
Puis que ce même président-là, après ça, t'envoie sur l'avion qui aurait pu être attaqué par des Iraniens. Ça te tenterait-tu de continuer à prendre des balles pour lui?
Moi, je suis dans cet avion-là. T'sais, mon gestionnaire me met dans une situation où ma vie est en danger. Ciao, bye, le gestionnaire.
C'est fini.
Non, c'est fini. Là. Voyons, ma vie vaut bien plus qu'un poste, peu importe le poste dans une organisation, qu'il soit là, justement haut placé ou non.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est, puis je doute que non, là, je tiens à dire, là, mais est-ce qu'on va avoir une porte-parole de la Maison-Blanche qui va un peu reprendre un rôle plus neutre et moins partisan? Ça m'étonnerait beaucoup, là, parce que ce rôle-là se veut pas autant partisan que ça, initialement. Là. La Maison-Blanche a vraiment appris une tournure très, très partisane envers Donald Trump, puis Caroline Leavitt, c'en était une qui l'était. Mais du côté de Trump, on va probablement juste vouloir... retrouver quelqu'un qui dit ce qu'on veut qu'elle dise puis que ça finisse.
Exactement, mais Caroline Leavitt, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'avec sa prestance et sa jeunesse, elle était capable, on dirait, de dédramatiser les choses juste par sa présence.
Puis d'aller rejoindre, tu l'as bien dit, d'aller rejoindre un électeur que des républicains ciblent.
Bien, il y a énormément d'indécis à l'heure actuelle aux États-Unis. C'est comme ici au Québec, hein, on parle d'un un électeur sur deux qui est encore indécis, puis on se lance en campagne électorale. Mais c'est la même chose pour les Américains à l'heure actuelle. Puis c'est de la faute à Donald Trump, et son mouvement MAGA, mais c'est aussi, là, la moitié de la faute revient aux démocrates qui, là, élisent des socialistes pour aller à la, pour ouais, aller non, se présenter à la mi-mandat. Donc là, les électeurs ont le choix entre deux extrêmes. Alors, il y a énormément d'indécis dans le milieu. Ça va être une course très intéressante également, ces élections de mi-mandat. Courte pause, on termine l'émission en actualité. Hey, je vais entre autres te parler de Zachary Bolduc qui a pris la décision. J'avais, moi, des vidéos avec Lewis Lefou. Ciao, bye. Ça n'existe plus. Jusqu'à 4. Boulevard 102-1, 13h49 minutes. L'émission N'en jase, votre émission d'actualité d'opinion sur l'heure du dîner tire à sa fin. Denis Gravel avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot seront là de 14h à 18h. Et c'est Marceau le soir à 18h. Je crois que c'est avec un collaborateur qu'on aime bien, Étienne-Alexandre Beauregard. C'est bien ça, Mathias?
Oui, c'est bien ça, ce soir à partir de 18h.
Ancien rédacteur de discours de François Legault alors qu'il n'avait seulement que 21 ans. Maintenant, chercheur à l'Institut Cardus. Et il va être avec nous, justement, demain aussi dans l'émission N'en jase, 12h30. C'est un segment qu'on veut essayer avec lui. C'est un segment de résumé de la semaine politique. Donc, je le sais, lorsqu'il vient avec nous en studio, on reçoit énormément de commentaires positifs et vous êtes plusieurs à interagir. Mathias, j'étais fier de mon gars hier.
Comment
ça? Très fier de mon Edou. Je m'en vais le chercher à son travail. Je ne l'avais pas vu depuis le début de la semaine car il était chez sa mère. Et la première affaire qu'il me dit, c'est « Hey, Pat, sais-tu quoi? Je vais arrêter de regarder Lewis Lefou. »
Ah ouais? OK.
Fait que là, genre, ouais, comment ça? Ben, il dit, tu sais, tu t'as pas arrêté d'en parler à la radio. Fait que là, d'un, j'ai su qu'il m'écoutait, puis ses chums m'écoutaient. Il dit, mais Médusa, ça n'a pas rapport, cette affaire-là. Ouais, là, OK, les femmes, on traite pas ça de même en 2026. Il dit, tu parles d'une gang d'enrageux, toi? Puis il dit, hey, il dit, a pris du temps, Lewis Lefou, hein, avant de se sauver de là, de ce bateau-là, là. Fait qu'il dit, non, fini.
Fait qu'il a pris la décision par lui-même de dire, hey, c'est pas un gars qui rejoint mes valeurs, j'arrête de l'écouter.
Exactement.
C'est quand même de la maturité, ça.
C'est de la très belle maturité. 16 ans, je tiens à le dire. Pour ceux qui m'ont écrit des textos là, pour me dire « Ah, ça n'a pas d'allure ce que tu dis de Médusa. » Ben ouais, 16 ans, grand garçon de 16 ans avec des bonnes valeurs qui a dit « Hey, moi, sais-tu quoi? Je donnerai plus de temps de glace à ces influenceurs-là. »
Je donnerai plus d'attention aussi. Pis,
c'est ça.
Tu sais, dans le sens, eux autres, c'est en ayant des spectateurs qui gagnent leur vie. Fait que le simple fait de dire « Hey, j'arrête de regarder », ben, ça a un impact direct sur ces personnes-là.
Exactement. On vient jouer directement dans le portefeuille quand on arrête de les regarder. Ben là, il y a un athlète que j'adore. Moi, c'est Zachary Bolduc, joueur du Canadien de Montréal. Je l'adore pourquoi? Parce qu'il a passé 2 ans avec les Remparts. Il y a eu 2 saisons de suite de 50 buts et plus. La saison de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial des Remparts, je me retrouvais toujours assis à côté de la mère de Zach Bolduc puis de la mère de William Rousseau, qui était le gardien de but des Remparts. Quelle belle famille! Des travailleurs de Trois-Rivières qui ont travaillé fort toute leur vie pour, qui ont dépensé de l'argent en s'il vous plaît pour leur fils, avec un fils qui a des bonnes valeurs aussi, un gars qui est très terre à terre, un grand travaillant. Ben, Zachary Bolduc m'a prouvé qu'il venait d'une bonne famille aussi parce que lui, il a dit, hey, ouais, j'ai des vidéos, moi, avec Lewis Lefou, hein. On va l'appeler Lewis puis je vais lui dire, hey, enlève-moi ça, je veux plus être associé à ton nom.
Donc, on retire tout le contenu qui est disponible ou qu'on nous voit ensemble.
Exactement. Fait que Zachary Bolduc, qui, je le rappelle, va être capitaine des Nordiques Bleus aujourd'hui au Pro-Am, nous prouve que quand il fait une activité caritative comme il va faire ce soir au Centre Vidéotron pour 6 organismes de la région de Québec, c'est pas du frame. Il était élevé de la bonne façon, il a des bonnes valeurs, puis lui, il a dit non, 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 non. C'est pas vrai que je vais m'associer à un individu, Lewis Lefou, qui, rappelons-le, a pris un petit 48 heures avant de quitter le bateau, hein, parce que, oups, soudainement, ça a fait scandale au Québec.
Ah, même un peu plus que 48 heures. Ils sont restés 3 jours, les streamers, avant de quitter.
Exactement. Ça a ressorti hier aussi dans les médias des propos misogynes que Lewis Lefou avait déjà fait alors qu'il était âgé de 18 ans. Évidemment, bon, il s'est excusé de ces propos-là. Ce que j'en comprends, c'est que c'est suite à une séparation qu'il a eue. Donc, puis il avait 18 ans, puis il l'a mal géré, puis c'était sur Twitch. Puis moi, que tu t'excuses, puis tu disais, il savait pas, rapporte le cut, c'est correct, moi, là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, là. On a fait des erreurs.
Ouais, puis un jeune de 18 ans qui se séparait, tu sais.
C'est ça.
Puis je dis pas que les propos étaient corrects, là, mais il disait en gros que pour reprendre ses mots, là, que les femmes se faisaient aller la gueule en disant qu'elle parlait beaucoup, 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 que ça le faisait chier.
C'est ça.
Mais, tu sais, encore une fois, c'était une séparation. Il avait 18 ans, il s'est excusé. Il a dit, j'ai compris que c'était inacceptable.
En plein ça. Fait que je veux saluer Zachary Bolduc, qui, selon moi, a pris la très bonne décision, qui nous prouve qu'au-delà du sport, c'est un très bel être humain qui a énormément de respect pour les femmes. Pierre-Luc qui écrit Good job, Edou. Ben oui, je voulais justement parler de mon Edou puis saluer sa très grande maturité à 16 ans. J'étais vraiment, vraiment fier de mon gars hier. J'ai dit, waouh, Colin Debin, on y a enseigné des valeurs, moi puis sa mère. Des bonnes valeurs, selon moi, des valeurs que l'ensemble de la société partage. Puis là, du haut de ses 16 ans, il s'est tenu debout, puis il a dit, ouais. Parce que là, le match de hockey, Olivier Primo, Lewis Le Fou, centre vidéo 30.
Ça a encore lieu.
Moi, mes gars, là, c'était. On prend pour l'équipe de Lewis Le Fou, on a eu Olivier Primo, là. Mais là, c'est mes gars, on regardera même pas la game. Là.
Ah ouais, pas du tout un boycott événement.
Exactement.
Mais, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec cet événement-là. Oui. Est-ce qu'on va avoir une vague de boycott? Est-ce qu'Oli Primo va revenir sur sa décision ou la poussière va retomber puis au final, on n'en parlera juste plus?
On verra. On n'a pas entendu Olivier Primo dans les médias sur ses plateformes là-dessus. C'est déjà tout pour nous à l'émission On en jase. Mathias Turcotte, c'est toujours un bonheur de faire de la radio avec toi. On se reprend demain.
Bien sûr, un plaisir partagé.
C'est Max Larouche qui va être avec Audrey Pinchot et Denis Gravel dans leur retour. Nous, on se revoit demain à midi. Puis j'espère que vous aimez votre duo Jeff Fortin et Mathias Turcotte parce qu'on va faire un petit 4 heures la semaine prochaine, lundi et vendredi. Bye-bye, guys.
Et salut, bonne journée.